Les origines d'une anthropologue nommée Elsa Ramos.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Nous ne discutons pas la famille. Quand la famille se défait, la maison tombe en ruine. Un proverbe portugais sur lequel j'aurais pu tomber en lisant « Un anthropologue dans ma famille » qui paraît chez Buchet-Chastel. Ouvrage concocté par l'anthropologue Elsa Ramos qui, sur presque 300 pages, vous fabrique une boîte à outils pour rédiger votre roman familial en quasiment 6 mois. Comment mener l'enquête dont vos grands-parents sont les héros? Sur quel thème? Autour de quels objets? Avec quelle technique pour libérer la parole? Des questions très en sol majeur, d'où le Bristol envoyé à Elsa Ramos, maîtresse de conférences en sociologie et dont les recherches portent notamment sur la famille, la jeunesse, la migration. Des travaux qui cherchent à saisir la place de l'individu pris entre son autonomie et ses appartenances. Une invitée qui peut dire à propos d'elle-même et sans doute de ses origines, le fado, c'est tout ce que je ne peux pas dire. Hola, ¿cómo está? Elsa Ramos.
Muito bem, obrigada.
Bonjour, bienvenue en sol majeur.
Merci.
Alors curieusement, on ne va pas ouvrir le bal avec du fado, ça ce sera pour le dessert. On va ouvrir avec, parce que vous l'avez voulu, avec le sage du Sénégal, Ismaël Lo. Vous nous direz pourquoi après son Amoul Solo. Loin des modes, loin de tout, mais tout près de vous sur RFI, c'est Ismaël Lo qui se retrouve sur les platines dans Sol majeur. Pourquoi avoir choisi cette chanson, Elsa Ramos?
C'est un morceau qui me transporte. Amoul Solo, ça veut dire tout va bien. Il y a cette langue que je ne comprends pas.
Le Wolof?
Oui. Alors le Amoul Solo, souvent, alors j'ai beaucoup... voyageait en Afrique de l'Ouest et beaucoup au Sénégal. Il y avait toujours cette expression qui revenait, Amoul Solo. Et je trouve que c'est un morceau qui paraît suspendu. Ce que j'aime dans ce morceau, c'est presque des moments de silence.
Et puis c'est une invitation peut-être à l'ailleurs. J'ai regardé un peu vos publications précédentes. J'ai relevé notamment « Immigration et identité nationale, une altérité revisitée ». C'était en 2009. L'invention des origines, sociologie de l'ancrage identitaire en 2006, et puis carnet de route d'un voyageur en Afrique de l'Ouest en 2014. D'ailleurs, vous vous êtes effectivement penché notamment sur les Cap-Verdiens de Dakar. Bref, Elsa, vous travaillez beaucoup sur les origines. Pourquoi cette question des origines vous préoccupe autant?
Alors, je ne sais pas si on choisit toujours. Alors, a posteriori, oui, avec le recul, de se dire, bah oui, c'est évident. C'est évident que je travaillerai là-dessus. En 2002-2004, j'ai travaillé sur les origines, mais sur les origines des Français, entre guillemets. Il s'agissait de comprendre ce que voulait dire « je suis Alsacien, je suis Breton, je suis Corse », voilà, sur ces appellations-là. Il s'agissait de comprendre cette idée de « je rentre chez moi ce week-end », voilà, ce « chez moi ». C'était travailler sur l'émigration interne en France, sur le territoire français, de personnes d'origine française. C'était une manière de pouvoir travailler sur les questions migratoires en mettant à distance, en refroidissant la question.
On relèvera peut-être le mot migratoire, migration, qui est sans doute en lien avec votre histoire intime, on y reviendra sûrement. Rappelez-nous, cela dit, Elsa Ramos, c'est quoi un anthropologue ?
Un anthropologue est un enquêteur qui cherche à comprendre comment vivent les personnes, comment se construisent les sociétés, comment elles se définissent. Et tout ça par cette démarche particulière qu'on appelle l'observation participante.
Il est sur le terrain.
Oui.
Et vous voilà sur le terrain de la famille. Donc, un anthropologue de la famille, qu'est-ce que c'est ?
Un anthropologue de la famille, c'est celui qui se met en quête de comprendre l'histoire de sa famille en prélevant des bribes. Il a entendu des anecdotes, il a entendu des histoires. Et il est aussi dans un environnement matériel. Donc il y a des objets, peut-être que certains objets, il n'y a jamais prêté attention. Donc un anthropologue dans la famille, c'est effectivement celui qui commence à regarder ce qui l'entoure avec un autre œil que ne le fait le membre de la famille.
Mon grand-père, donc Alexandre, il est né en Ukraine, à Kiev. Ils sont partis quand il était très jeune. Il avait quoi ? Il avait 5 ans, même pas ?
Oui, sans doute, il était très jeune.
Donc il est né en 1915, puis il est parti après la révolution bolchevique.
Son père a été prévenu par un commissaire du peuple, qui les aimait bien, qu'il risquait d'y avoir une grande... Je ne sais pas du tout si c'était une grande rafle des Juifs ou une grande rafle des gens qui... des possédants. Ça, je n'ai pas la moindre idée, puisque les deux devaient être mélangés. Et même s'il y a eu Trotsky et d'autres Juifs parmi les grands de cette époque, l'antisémitisme existait quand même déjà. Alors, on est venu les prévenir, et c'est là qu'ils sont partis.
Et en plus, son père, mon grand-père, donc mon arrière-grand-père, était orfèvre et bijoutier pour le tsar, donc il était
il a été invité, si j'ose dire, puisque les Juifs ne pouvaient pas circuler comme ils voulaient, ni les autres non plus, une fois à Moscou, je crois, mais je ne peux pas le garantir, pour présenter des bijoux aux filles du tsar.
M comme... Mantra.
Et oui, nous aussi, on s'amuse par ici en apprenti anthropologue à la sauce esprit de famille pour en sol majeur, à créer comme ça des tête-à-tête entre grands-parents et petits-enfants, ici entre Michel et Flora. Donc je vais poser une fausse question d'entrée de jeu. Elsa Ramos, en quoi un grand-parent, ça représente selon vous un trésor ?
Dans ce dont il est dépositaire. Il est dépositaire... de vécu dont ne sont pas dépositaires ses enfants et dont ne sont pas dépositaires ses petits-enfants. Ce trésor, il s'enfonce aussi dans l'histoire. C'est-à-dire que le grand-parent peut être un témoin de l'histoire familiale, mais aussi de la grande histoire. Et avec le décès du grand-parent, donc en Afrique, on dit... quand un vieux décède, c'est une bibliothèque qui brûle. Mmh. Et quelque part, c'est la même idée. Un grand-parent qui décède emmène avec lui tout un pan de vécu qu'il n'a jamais explicité.
Mmh. Alors, un grand-parent, c'est un trésor parce que c'est un dépositaire d'une histoire, d'un passé, vous le disiez. Mais alors, autre question dans la foulée, en quoi reconstituer son histoire familiale représente un trésor aussi ?
L'histoire familiale est un cadeau. Alors, c'est un trésor dans le sens où on va à la recherche de ce qui fait le socle, le soubassement, à la fois des membres de la famille et de la lignée. C'est aussi un trésor dans le sens où il peut aider à nous construire. Ça veut dire qu'on se définit peut-être comme un pont entre les générations. C'est un trésor parce que peut-être que pour ses enfants, on se dit cette histoire familiale, je la transmettrai à mes enfants qui la transmettront à leur tour.
Transmettre ou pas ? Il y a aussi dans certaines familles de tels traumatismes qu'on décide d'arrêter la hache du temps, ou d'arrêter justement la transmission.
Oui, transmettre ou pas. Mm. Dans les familles, il se peut qu'il y en ait un qui se définisse comme héritier, qui veut avoir ce rôle de passeur. Il y a aussi des histoires douloureuses, avec cette idée de ce n'est pas mon histoire, ce qu'a vécu mon père ou ma mère, ce qu'a vécu ma grand-mère ou mon grand-père. Ce n'est pas mon histoire, c'est la leur. Et peut-être un autre cas aussi, quand il y a eu maltraitance dans la famille. Et dans un des entretiens que j'ai menés sur les origines, c'est le lieu de l'enterrement. Et il y a une femme qui avait vécu l'alcoolisme du père et puis la maltraitance dans sa famille et qui me disait « Je ne veux pas être enterrée dans le cimetière de famille, je veux être loin de cette famille-là. » Et peut-être aussi que dans une famille, dans les fratries, certains peuvent se définir comme héritiers et puis d'autres ne pas nécessairement être attachés à faire ce pont.
Vous avez concocté 400 entretiens hein, environ, Elsa Ramos, vous avez l'air de dire oui, ouf. Et vous avez bien veillé à varier les zones géographiques, les milieux sociaux aussi. Dans un anthropologue dans la famille, donc qui est à l'attention des apprentis anthropologues qui nous écoutent peut-être, hein, sur le terrain familial, ils vont se retrouver sur ce terrain-là, vous concoctez un véritable mode d'emploi. Avec à chaque étape, dans ce mode d'emploi, des récapitulatifs, même des mantras, hein, comme vous les appelez, Elsa Ramos, par exemple, dans le récit de mon grand-père, qu'est-ce que je peux apprendre sur la société dans laquelle il vivait et sur celle qui m'entoure aujourd'hui ? Avec bien évidemment des questions en cascade, la première c'est qu'est-ce que je vais faire de ce matériau recueilli ? J'ai enregistré mon grand-père, qu'est-ce que j'en fais ? Un livre ou peut-être un film ?
Ba galli. واش تاع هذيك الطابله من راها تخرج
Mon père m'a dit c'est quoi cette table d'où elle sort
ماشي هذيك الطابله اللي شيتها في 1967 كي كنا نعيشوا في الباطوار ما كانتش خضره كانت زرقاء انا عارف
ce n'est pas la table que j'ai achetée en 1967 lorsqu'on vivait au bidonville elle n'était pas verte mais bleue je le sais c'est moi qui l'ai peinte en bleu Je me souviens aussi de la maison que j'ai construite pour ta mère, tes frères et tes sœurs.
Ma gatli, fi 1963,
ma mère m'a dit,
Wak shra hadik tabla.
C'est en 1963 que ton père l'a achetée, cette table, chez un chiffonnier à notre arrivée, ton frère et moi. Ton père l'a peinte en vert, non en bleu. Je le sais, je mangeais dessus avec mes enfants.
Kul khatrat kunna bwahedna. La khatr bwak kan yakhdem b'id.
Ton père était toujours en déplacement pour le travail.
Extrait pour Ensole Majeur sur RFI de La table verte d'Aïcha Berouba qui ancre donc son histoire familiale autour d'une table. Film que vous évoquez, Elsa Ramos, dans Un anthropologue dans la famille. Et je vois que vous avez toujours votre petit carnet. Hein. Le geste de l'anthropologue ne s'arrête jamais. On peut savoir ce que vous avez noté en écoutant cet extrait ?
J'ai noté double langue, français et arabe.
Absolument. Et donc quoi ?
C'est un peu cette double appartenance, ce dialogue intérieur entre deux identités, mais qui ne font qu'une.
Mais là, ce qui vous intéressait précisément dans cette démarche de film, c'est le fait que Aïcha Berouba ait pris comme point d'appui de son récit familial la table que son père a ramenée à leur arrivée en France.
Oui. Ce que je recommande pour mener l'enquête, c'est de s'appuyer sur les objets. Et là, je trouve que c'est un exemple extraordinaire parce qu'à partir de cette table, On a le parcours migratoire des parents, on a le parcours ensuite résidentiel en France, des bidonvilles à des logements décents. On a l'ascension sociale, c'est-à-dire que cette table, à un moment, elle va partir à la cave parce qu'elle a été remplacée par une table en formica. Formica, on a les années 70. Donc, on a énormément d'éléments à la fois du parcours des parents, en même temps des données selon les époques, plus des données historiques.
Sociales.
Dans ce documentaire, à un moment, il y a un doute. La table est verte ou la table est bleue?
C'est la mémoire, là, la mémoire familiale.
Tout à fait. Et sur cette table, il y a un ensemble d'objets qui passent, de la crème Nivea, des photos. Elle a servi pour manger autour, la famille se réunissait autour. Donc ça évoque à la fois des odeurs, des situations, des gens, des époques. Et c'est richissime, quoi.
C'est la métaphore de la maison. Donc les objets sont très bavards. Vous rapportez la très belle histoire, page 69 de Najdeda, très attachée à sa grand-mère russe. C'est un attachement d'ailleurs qui passe. Alors l'objet, en l'occurrence, c'est une robe traditionnelle.
Cette robe lui a été donnée par sa grand-mère. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que l'œil non initié n'y voit rien.
Oui.
Parce que les objets sont bavards, mais ils ne parlent pas. C'est-à-dire que pour être bavards, ils ont besoin d'une voix. Et cette robe de Nadeja qui lui a été donnée par sa grand-mère, alors déjà, c'est une robe de sa grand-mère. Deuxièmement, c'est une robe oudmourte, donc une région.
De la Russie.
De la Russie. Et en plus, un œil encore plus initié reconnaît que c'est une robe de cette famille-là. Et je trouve ça fascinant aussi de se dire que le fil des générations s'inscrit dans le tissage et dans les fils de la robe, quoi.
Donc il faut ces voix pour donner ce que les non-initiés ne peuvent déceler, décrypter à travers un objet, à travers un fer à repasser par exemple, ou à travers une étagère avec plein de verroteries. Là, il y a un témoignage d'une femme liée notamment au Liban qui est magnifique et que je conseille aux auditeurs de lire dans votre ouvrage. Dans cette boîte à outils, pour mener l'enquête, Elsa Ramos, il y a une pièce majeure, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est évidemment le moment de l'entretien avec le grand-parent. Et ça n'a pas l'air quand on nous écoute, mais ça se prépare, un entretien. Il y a une technique, l'écoute est fondamentale, il faut savoir rebondir sur un mot qui n'est pas clair, il faut savoir relancer, etc. Et il y a un mot-clé que vous employez, il faut de la distanciation. C'est nécessaire à l'échange, dites-vous. Pour quelle raison ?
L'anthropologue a besoin de cette distance pour arriver à une connaissance qui soit moins imprégnée d'affectif. C'est à la fois un être cher et familier qui parle, et en même temps, on va le découvrir un peu comme un étranger. Il y aura une étrangéité dans ce qui va être dit. Si je le vois trop comme un grand-parent, il y a beaucoup de questions que je ne vais pas lui poser. Sa jeunesse, il a été jeune, non, ce n'est pas vrai.
Amoureux.
Amoureux, non, il a eu des rapports sexuels en dehors de ma grand-mère ou de mon grand-père. Bon, voilà. Donc la distanciation, elle est aussi...
Elle autorise certaines questions.
Tout à fait.
Un jour, je lui dis, « Je ne suis jamais rentré dans la chambre de ta maman. » Mais j'en suis sûr que si on va au chevet du lit, on va trouver un gros chapelet d'au moins 2 mètres, on va trouver un rameau là. Et elle s'est mise à rire en me disant, en plus, tout ce que tu dis, c'est vrai. Je lui dis, je connais nos grands-mères là. Jusqu'à aujourd'hui, tu vas dans leur chambre et tu vas trouver, hop, une branche de rameau, une grosse croix là. Je te jure, comme les chaînes des esclaves là, tu vois ? Suspendu au chevet du lit. Ça, c'est sûr, vous entrez dans 10 maisons de Cap-Verdien, vous allez trouver dans les 10 maisons la même chose.
Cette description de chambre à coucher, donc rapportée par un Cap-Verdien de Dakar dans votre enquête, un anthropologue dans ma famille, Elsa Ramos, ça en dit long, mais il faut être initié, comme vous l'êtes bien sûr, sur les appartenances religieuses et sociales dans ce cas-là.
Oui, on entend plein de choses, c'est-à-dire c'est la chambre de sa grand-mère. Et avec cette idée de nos grands-mères, je les connais bien. Et donc là, on entend effectivement les appartenances religieuses. Les Cap-Verdiens sont très croyants. On entend la culture cap-verdienne, un peu presque avec cette idée presque culturaliste d'une certaine manière, c'est-à-dire dans toutes les chambres des Cap-Verdiens, tu trouveras ceci, tu trouveras cela. C'est un peu aussi une manière de définir une appartenance.
Oui, alors je remarque quand même que le Cap-Vert qui revient dans votre travail, le Cap-Vert, ancienne colonie portugaise, ce pan de l'histoire coloniale, Elsa Ramos, que vous diriez que ça nourrit indirectement votre travail sur cette question des origines?
Sur ce terrain-là, il y a des choses qui m'ont interpellée. Déjà, quelque part, c'est curieux d'aller au Cap-Vert dans une ancienne colonie portugaise.
Pourquoi c'est curieux?
Parce qu'on est descendant de l'ancien colonisateur. Donc c'est un drôle de ressenti. Oui, une sorte de culpabilité de se dire commerce triangulaire, l'esclavage. Et puis en même temps de se dire, mais je suis, bon voilà, j'arrive des générations après, enfin, je ne suis pas directement responsable. Mais alors il y avait aussi un pan de l'histoire portugaise. J'avais été à Tarrafal. Tarrafal, c'est sur l'île de Santiago, donc une des îles capverdiennes. Et Tarrafal, c'est là où on mettait les prisonniers politiques sous la dictature de Salazar au Portugal. Et j'avais été là-bas. Il faisait très chaud. Il y avait personne, à part quelques corbeaux. C'était dans un silence absolu. Il y avait ces cellules. Alors pour moi, ça ne faisait pas beaucoup sens, mais je me souvenais de mon père parler de Tarrafal et des prisonniers politiques. Donc là, il y a aussi eu des sensations assez particulières, à la fois de peur, à la fois d'angoisse, à la fois de « ah, c'est ça », l'impression d'entrer dans des dimensions de l'histoire qui n'étaient pas les miennes.
Des mini-connexions malgré tout.
Oui, c'est ça. Et en même temps, Tarrafal, c'était presque mon lien avec mon père. Et sur ce terrain aussi, alors pas directement au Cap-Vert, mais Cap-Verdien de Dakar, donc à Dakar, j'ai aussi rencontré un monsieur de 90 ans. Je lui dis « En quelle langue voulez-vous qu'on fasse l'entretien ?» Et il me répond tout de suite en portugais. Quelque part, ça m'a fait mal parce que ce monsieur, ça faisait 12 ans qu'il ne parlait plus le portugais parce que, bon, à l'indépendance du Cap-Vert, certains étaient pro-indépendance et certains étaient contre l'indépendance. Donc, il y a des gens que j'ai rencontrés, moi, au Sénégal, qui continuent de se définir comme portugais et d'autres qui se définissent comme capverdiens. Et il me dit, tu te rends compte, ça fait 12 ans que je ne parle pas ma langue. Parce que tous ceux qui autour de moi parlaient ma langue sont morts. Et je me dis, mais c'est tout un monde, en fait, qui part avec ceux qui parlaient la langue. Donc, ce terrain, c'est de ça aussi que j'ai fait l'expérience.
Oui, ça explique quand même pourquoi vous êtes anthropologue, hein, cette histoire même. Donc, si on résume, les lieux sont importants, les objets fondamentaux, bavards, les photographies, évidemment, très importantes, les documents, type le livret de famille, tout ça, ce sont des révélateurs. Mais comme vous le disiez aussi tout à l'heure, il y a parfois des résistances au récit. Ça s'appelle souvent des secrets de famille. Quelle posture on peut avoir quand on sent qu'il y a ce type de résistance?
Il y a une règle qui me semble importante, c'est les yeux, les oreilles dans l'entretien. Les yeux, les oreilles...
C'est un bon titre d'émission de radio, ça.
Alors, les oreilles, déjà, ça veut dire que le discours s'arrête et que mes yeux doivent me donner des informations supplémentaires que l'oreille peut ne pas me donner. Ça veut dire, est-ce que mon grand-parent a fini de parler et il attend la question suivante. Est-ce que mon grand-parent réfléchit? Est-ce que mon grand-parent est ému? Et je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter à dire « Je sens qu'il y a quelque chose qui est douloureux ou qui fait mal. Si tu ne veux pas en parler, on n'en parle pas. » Parce que ce n'est pas prélever des informations à tout prix. Et il faut avant tout respecter ce que veut dire ou ce que ne veut pas dire le grand-parent, d'autant plus que ça peut jouer ensuite sur les relations dans la famille.
Oui. Je ne vais pas vous demander de décrire la salle de bain de vos grands-parents, Elsa Ramos, pas tout de suite, mais pour me rapprocher de votre histoire particulière, pour se mettre un peu à table, si j'ose dire, on va commencer par une petite madeleine sonore.
Thank you.
entendez là vous ramène où, Elsa ?
Ça m'emmène où ? Ça m'emmène très loin. Ça m'emmène au Portugal, en zone rurale, dans la Sierra Nacer. Je le prononce un peu à l'espagnol, mais en fait, non, en portugais, on dit Acer. Et Acer, c'est là où les bergers gardent leurs moutons. Et mon grand-père paternel était berger, donc il avait 150-200 moutons. Et c'est un bruit qui a marqué mon enfance. Et ça me ramène entre ciel et terre, oui.
Comment s'appellent ces clochettes en portugais ?
Chocalho. Chocalho. J'ai essayé de trouver la traduction en français. Cloche, c'est imparfait.
On n'y est pas.
Non, on n'y est pas. On n'y est pas. On pense plutôt au clocher d'église ou de. Enfin, bon, voilà. Et alors, je crois qu'il y a un terme qui est semaille, si mes souvenirs sont bons. Mais semaille, c'est tellement un terme inconnu dans ma bouche là que ouais. Non, c'est un chocalho.
Est-ce qu'il y a d'autres mots que vous ne pouvez dire qu'en portugais ?
Oui, il y a beaucoup l'alimentation que je mange là-bas. Bacalhau à Brás, um espado. Les mots qui ont trait aux outils agricoles que mes grands-parents utilisaient. Le nom des gens.
Les surnoms, parce que souvent dans oui. Les villages, on donne des surnoms, par exemple.
Caixeira. Caixeira, c'était le surnom de ma grand-mère maternelle. Caixe, c'est une boîte. Caixe. Et caixeira, c'est elle vendait dans la boîte des sardines sur la tête. Elle était connue comme caixeira. Et donc, il y a beaucoup de noms comme ça, de surnoms, qu'on appelle apelidos.
Jaki jest obiekt najbardziej cenny?
Quel est l'objet le plus précieux dont vous êtes en possession?
Elsa Ramos, vous n'êtes pas venue les mains vides à ce que je vois.
Non, non, j'ai ramené un petit objet que je vais sortir de mon enveloppe.
Oh. Alors, ce n'est pas une noix?
Non.
C'est une petite boule ronde marron.
Voilà.
On pourrait dire que c'est une boule de terre, mais je vois bien que ce n'est pas de la terre. C'est peut-être en plastique, je ne sais pas.
Non, c'est de la terre.
C'est de la terre.
Alors, on est dans une émission qui s'appelle En sol majeur, et c'est mon sol majeur à moi.
Oh là là.
Donc, c'est une boulette de terre rouge. Alors, c'est de la terre qui vient de chez moi. Hein.
C'est vous qui l'avez roulée en boule comme ça ?
Oui. Et cette terre rouge, je la retrouve en Afrique. Notamment l'Afrique de l'Ouest que je connais mieux. J'étais au Mozambique aussi, mais voilà, un peu une recherche de cette terre rouge. Peut-être une recherche de ce que j'ai vécu entre terre et ciel. Et puis la terre, ben c'est aussi la terre des morts.
Oui, vous me faites signe avec la tête, je ne sais pas très bien ce qu'il faut en penser. Mais
non, c'est juste émotion.
Bien sûr, oui. Oui, oui
ils bon, sont voilà, là. La terre où là. Les morts sont enterrés.
Oui. Nous ne discutons pas la famille. Quand la famille se défait, la maison tombe en ruine. Proverbe, justement, maison, proverbe portugais. Est-ce que vous aussi, et pour quelle raison, vous avez peut-être souhaité reconstituer l'histoire familiale ?
Non, je ne l'ai pas fait. Alors, il y a quelques années, on me disait beaucoup, parce que les réalités que je vivais dans mes petits villages au fin fond du Portugal étaient très différentes des réalités que je vivais en région parisienne et après à la fac.
Parce que vous êtes née en 69 à Lisbonne, hein ?
Oui, mes parents ont fait une première tentative de migration pour vivre et manger. Et ensuite, au bout de quelques mois, ils sont rentrés au village. Et puis, mon père est venu en France. Donc je suis née à Lisbonne, mais quelque part je n'ai fait qu'y naître et j'ai dû y rester 4-5, enfin voilà, 4-5 mois. À cette époque-là, quand j'ai commencé mes études, les gens me disaient souvent « mais tu devrais faire l'anthropologie de ton village, des manières de vivre » parce qu'ici on trouvait que les manières de vivre que je rapportais étaient quand même très très différentes. Et à ce moment-là, elles m'étaient trop quotidiennes, donc je me disais « mais c'est comme un anthropologue là dans sa famille, dans ma famille ouais. » d'une part. Mais je crois que y a des choses que je n'avais pas envie d'entendre et que je n'ai pas envie d'entendre. Voilà, qui était le parcours, vous parliez tout à l'heure de faits saillants, qui était un peu le parcours migratoire, d'abord du grand-père maternel et ensuite de mes parents. Je n'ai pas la force de les entendre.
Alors Elsa, pour un sol majeur, je vais vous demander de prendre une grande inspiration. C'est parti ?
Oui.
As motivações económicas estiveram na origem do ciclo europeu da história da imigração portuguesa. Um milhão de aventuras... No salto clandestino até os bidonvilles de Paris.
Andámos duas noites a pé. Depois fomos para um caminhão simulado que lava carvão, mas tinha uma caixa vazia lá dentro. Foram muitos lá para dentro e outros para cima, e depois meteram-lhe o toldo por cima e amarraram. Nós ficámos ou de barriga ou de costas na posição que ficámos, ficámos 24 horas.
Alors on comprend plus ou moins dans cet extrait de documentaire pour un sol majeur sur RFI qu'il s'agit de difficultés de l'immigration portugaise dont vous nous parliez à l'instant, Elsa. C'est une archive que vous souhaitiez entendre, hein, d'une part, mais qui est difficile en même temps à écouter pour vous.
Oui, bien sûr. Alors je souhaitais l'entendre parce que c'était dit en langue portugaise, d'autre part parce que effectivement ça parle aussi du voyage clandestin, des conditions de voyage. Et donc là, ce monsieur dit qu'il était dans un camion de charbon et qu'il se cachait. Et je sais que le premier voyage de mon grand-père est en 64 et qu'il a fait une quarantaine de jours à pied à travers l'Espagne franquiste. Et que la réalité du voyage était quand même qu'on leur donnait à manger du chocolat pour pas qu'ils aient trop d'excréments et qu'on les repère pas. Mon grand-père en a parlé, mais je voulais pas qu'il développe plus parce que je ne suis pas en capacité d'entendre plus de détails.
Alors il y a une photographie, page 184 d'un anthropologue dans la famille, une photo en noir et blanc de vos grands-parents, hein, Elsa, et de leur habitat.
C'est une photo qui montre une petite hutte. Ce sont des branchages qui sont noués et qui forment...
Un baraquement ?
Oui, c'est ça, un baraquement en deux parties. Imaginons deux grands rectangles faits de branchages assemblés, liés entre eux par... Alors, ce n'était pas des ficelles, c'était du jonc, voilà. Et donc, la partie haute qui se touche. Donc, ça fait une sorte de petite hutte triangulaire avec quelques planches clouées entre elles pour faire une petite porte. Et donc, au fond de la hutte, il y avait une paillasse. Et donc, c'était le lit. Et je me souviens aussi que les couverts, par exemple, il y avait un couteau, il y avait 3-4 cuillères plantées dans cette paille et qu'il y avait un grand récipient en terre cuite, toujours ma petite boule de terre rouge. En terre cuite, il y avait un récipient dans lequel on mangeait tous. Cet habitat était mobile. On ne perd pas de vue que mon grand-père était berger. Et donc, quand les moutons avaient mangé toute l'herbe qui entourait dans un certain périmètre cet habitat, ils le déplaçaient, ils le replaçaient plus loin et toujours à côté d'une source.
Donc, encore une fois, une photographie qui est une boîte de Pandore sur un certain nombre de réalités sociales, etc. L'histoire familiale, vous le disiez, vous l'avez dit plusieurs fois, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas entendre de cette histoire-là. Donc peut-être qu'il faut faire le tri entre l'expérience collective et puis son histoire individuelle.
Qu'il faut faire le tri dans quel sens ?
Ben, il ne faut peut-être pas prendre en charge absolument tout le récit familial. Il y a des, il y a des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, il paraît. Oui.
Alors après, je trouve que dans la question de la distanciation, la difficulté est celle-là. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire que je suis mal placée pour écrire cet ouvrage, puisque moi-même, j'arrive pas du tout à prendre sa distance nécessaire.
Cordonnier mal chaussé.
Mais oui, tout à fait. Donc, moi, je suis un très mauvais exemple de distanciation.
Mais en revanche, vous arrivez à nous outiller. En tout cas, au bout de la chaîne de la famille, de votre famille, il y a vous. Vous arrivez en France en 71, Elsa, avec... chaque année, un retour au Portugal, mais vous faites donc vos études en France avec quelques voix professorales qui vont compter. J'en ai retenu une, il s'agit de Jean-Pierre Varnier, l'anthropologue dans l'archive qu'on va écouter est reçu par Xerficanal au moment de la sortie de son livre « La mondialisation de la culture ». Et on lui demande dans cet entretien « Quelle est la réalité ?» de la disparition des particularismes culturels. On est dans le contexte de la mondialisation. Et est-ce qu'on y perd réellement quelque chose ?
Alors, la perte est énorme. Par exemple, dans le domaine musical, toutes les musiques anciennes, traditionnelles, disparaissent les unes après les autres. Il n'y a plus de musiciens qui apprennent l'usage de ces instruments de musique et ces répertoires. Et la musique qui aujourd'hui s'écoute dans le monde entier est une musique pop, rap, etc., qui est une création qui parfois d'ailleurs reprend des thèmes anciens. On voit dans la musique africaine, par exemple, je ne sais pas, Richard Bona ou quelqu'un de ce genre-là qui reprend des musiques anciennes. Donc la perte est énorme. La perte linguistique est énorme. 6700 langues parlées il y a encore 100 ans, il y en a une qui disparaît tous les 15 jours. Est-ce une perte? Est-ce un bénéfice? C'est très difficile à dire. On y gagne en communication, on y perd peut-être en profondeur, en authenticité, etc. Oui. Difficile de faire le bilan.
Vaste sujet, mais c'est juste pour en revenir à vous, Elsa Ramos. Je sais que vous notez déjà certaines choses des propos de Jean-Pierre Vernier. Vous qui étiez partie, je crois, faire des études pour devenir sociologue, vous avez opéré un virage vers l'anthropologie et ce virage s'est fait grâce à Jean-Pierre Vernier, dont on vient d'entendre la voix, non ?
Non, ce n'est pas un virage. Moi, j'ai fait des études de sociologie et quand je me présente, j'ai l'habitude de dire que j'ai deux jambes. Que mes deux jambes, donc l'une est la sociologie. J'ai fait ma thèse avec François de Saint-Guy en sociologie de la famille. Et lors de mes études, j'ai rencontré Jean-Pierre Vernier et j'avais fait un stage d'anthropologie. Et j'avais travaillé sur les outils agricoles transformés en objets décoration. Et je me souviens que lors de cet entretien avec un ferronnier d'art qui a bien voulu faire l'entretien avec moi, il ne cessait de me parler de ses grands-pères et de la maladie de sa femme. Et moi, je lui disais, non, mais je veux juste que vous me parliez de vos objets. Jean-Pierre Vernier, il avait un séminaire culture matérielle. Et c'est grâce à ces séminaires que j'ai développé aussi cette sensibilité à l'espace et aux objets.
Il y a eu la philo aussi, avant l'anthropologie, qui vous a ouvert d'autres portes.
Tout à fait. La philosophie, avec la philosophie, j'ai découvert tout un monde. Et surtout, un peu cette idée de... Il n'y a pas de vérité, tout se discute, tout se remet en cause, tout se réfléchit, parce que j'étais quand même dans une double culture avec les références familiales. Ben non, la vie c'est comme ça, une femme ça doit faire ça, une femme ça doit être ça. Et en même temps, à l'école, d'autres modèles de vie et d'existence et de ce qu'on est quand on est femme ou fille.
Double culture assumée à ce moment-là ou pas ?
Pas du tout, non, j'étais dans le nini. Abdelmalek Sayad,
le sociologue,
un ouvrage de la double absence, où voilà, c'est le nini. Donc j'étais dans le ni portugaise ni française, parce qu'au Portugal on me disait t'es française et puis en France on me disait t'es portugaise, donc j'étais dans le nini.
Donc il a fallu quoi faire un...
La philo m'a aidée parce que ça a légitimé mes questionnements. Et ensuite la sociologie et l'anthropologie m'ont aidée parce que tous les questionnements que j'avais, ben, je les ai retrouvés sous forme de recherche.
Quel est votre sol majeur?
On a déjà eu un élément de réponse tout à l'heure avec cet objet si précieux que vous avez ramené de cette terre natale, le Portugal, une petite boule de terre du village familial. Alors, malgré tout, quelle pourrait être cette réponse à quel est votre sol majeur? Je sais que vous aimez bien la question, d'autant que vous faites la nuance, je crois, Elsa, entre la maison et le chez-soi.
Oui, mon sol majeur... Alors, en français, je dis « je rentre chez moi » quand je vais au Portugal. En portugais, je vais dire « vou à terre ». Terre, ça veut dire de la terre. Mais ça veut dire aussi la famille inscrite sur un même lieu avec les vivants et les morts. Ici, en France, en région parisienne, quand je dis « je rentre chez moi », ça veut dire que je rentre à mon domicile. Le village là-bas, chez moi là-bas, à terre, ce sont mes racines. Et ici, ma maison, c'est mon ancrage. Et je crois que mon sol majeur, alors je ne dirais même pas qu'il se conjugue au pluriel, je crois qu'il se conjugue quand même au singulier. Mais c'est « et ». Je ne suis plus dans le « nini », je suis dans le « et ». Mais c'est « et à terre » et Paris. C'est une ville que j'adore. Et le Sénégal. Voilà, le sol majeur. Le sol majeur.
Et le sol aussi.
Oui, c'est ça.
C'est votre sol à vous.
Oui, il y a une forme d'unité dans cette multiplication, quoi.
Alors, puisqu'avec cette question, quel est votre sol majeur, on est aussi dans la partition. Vous avez eu la grande gentillesse de nous ouvrir votre boîte à musique personnelle, Elsa. Et quand on l'ouvre, on trouve votre voix chantant du fado. Un moment très en sol majeur.
Confesso que tu aimes, confesso. Non, encore, l'audio disait, non. não choro. Fugindo o amor tem seu preço, e a noite em claro atravesso, longe do meu travesseiro. A mim já não me esquece, mas lá perdão não te peço, sem que me peças primeiro. Rastros a teus pés, perdida te adorei, até que me encontrei perdida. Agora já não és na vida, oh meu Senhor, mas foste o meu amor na vida.
Une anthropologue chanteuse. Ça, c'est une première en sol majeur. Vous savez que si un anthropologue dans votre famille décide de reconstituer l'histoire familiale, il aura de la matière, avec notamment cet enregistrement que vous avez fait. Quelle chanson vous avez choisi de chanter, Elsa Ramos? Confesso.
Confesso que ti amei, c'est j'avoue que je t'ai aimé, avec un amour qui se termine, mais un autre qui prend sa place, mais qui laisse une trace.
Et c'est un immense amour pour le fado, parce que là, vous avez fait quand même la démarche d'enregistrer dans des conditions semi-professionnelles. Ça représente quoi pour vous de chanter du fado ?
Le fado, c'est une mise à nu. Il y a une phrase dans un fado qui dit « Le fado, c'est tout ce que je ne peux pas dire ». Et pour moi, le fado est une émotion. C'est l'émotion de la langue, c'est l'émotion tout court, c'est saudade. C'est peut-être une forme d'incomplétude. Et que peut-être que le fado vient entretenir, c'est ambigu. L'idée, c'est même pas de se guérir de saudade, c'est de la conserver, parce que l'impression que si je perds saudade, je perds une partie de moi.
Cet amour du fado, est-ce que vous l'avez découvert ou redécouvert, je vais dire une grosse bêtise, hein, mais grâce à l'anthropologie ?
Oh, bah, j'ai presque envie de dire presque. En fait, le fado, c'est très curieux, parce que mes parents n'écoutaient pas de fado. Au début des années 2000, j'ai eu une bourse de recherche, toujours avec mes deux jambes, là, sociologie, anthropologie. J'ai eu une bourse de recherche pour le Brésil. Et là-bas, j'ai découvert la samba, qui est aux antipodes du fado, en tout cas dans ses rythmes. Et je suis revenue du Brésil en me disant « je veux chanter du fado, mais je serais complètement incapable de retrouver le cheminement. Je crois qu'il n'y en a pas eu ».
Il y a des lieux hein, comme ça qui sont des révélateurs. Hein,
oui, tout à fait.
Puisqu'on est intime de façon en sol majeur, est-ce que je peux vous demander comment vous l'avez décoré, votre chez-vous ? Si vous choisissez par exemple, Elsa, une pièce qui soit chargée de toutes vos identités, comment vous nous feriez déambuler mentalement dans cette pièce ?
Alors, je parlerai de mon bureau. Au mur, j'ai beaucoup de tableaux que j'ai ramené d'Afrique de l'Ouest, notamment d'un peintre qui s'appelle Matar Hali. J'ai des statuettes, c'est très africanisé, j'ai envie de dire. J'ai une sorte de petit hôtel, donc là avec les photos de famille. Et puis j'ai mon bureau qui me rappelle les bancs de la Sorbonne, un peu ces grands bureaux, et qui est quelque part peut-être un symbole d'une réussite sociale impossible.
Donc, pas loin de ce bureau, sur les rayonnages d'ouvrages, il y a sans doute une voix qui mélancolise la situation. J'emploie un terme qui n'est pas exact pour parler de Fernando Pessoa, qui vous accompagne. Et là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être portugais, d'ailleurs, hein, pour le laisser entrer dans sa maison, Pessoa. Vous l'avez glissé dans votre enveloppe.
Oui.
Vous avez envie de nous abandonner à nous-mêmes avec un extrait, un passage de son Intranquillité.
Un poème. Il n'est pas dans Intranquillité. Il est dans un petit recueil de poèmes qui s'appelle Poésie inéditas, de 1930 à 1935, et qui a pour titre Sou evadido. Sou evadido, logo que nasci, fecharam-me em mim, ah, mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser um é cadeia, ser eu não é ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Je suis un fugitif. Depuis que je suis né, on m'a enfermé en moi, mais je me suis évadé. Si on se lasse du même lieu, du même être, pourquoi ne pas se lasser ? Mon âme me recherche, mais je marche tellement pourvu qu'elle ne me retrouve jamais. Être un est une prison. Être moi n'est pas être. Je vivrai fuyant, mais j'existe vraiment.
Merci Pessoa. Merci Elsa pour cette anthropologue dans ma famille, donc qui paraît chez Bûcher Chastel, et à vous de jouer derrière votre poste pour devenir l'apprentie anthropologue de votre propre famille. Et puis c'est Marisa qui va refermer les volets de cet en sol majeur avec un titre qui vous fait pleurer, Elsa Ramos. Je vous embrasse.
Por mais que seja negado, as cordas de uma guitarra sempre que se ouve um gemido numa guitarra canta fica suado perdido com vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que trago, foi de vós que recebi.
Au générique de cet en sol majeur consacré à Elsa Ramos, un petit peu d'intimité, d'anthropologie et de fado. Tout ça est à retrouver, vous le savez, en podcast sur Pure Radio. Théo Raison, Thibaut Baduel, Yasmine Chouaki, nous on se retrouve dimanche prochain pour d'autres aventures en sol majeur. Dans un instant, votre journal, suivi de Mondial Sport.
Et